Je repenserai souvent à cet extrait vidéo de Santelli, annonciateur des batailles politiques auxquelles je serai confronté au cours de ma présidence. Car il y avait au moins une vérité dans ce qu'il avait dit. Ce que nous attendions de l'État avait effectivement changé en 2 siècles, par rapport au temps où les pères fondateurs en avaient rédigé l'acte constitutif. Outre les principes essentiels, repousser l'ennemi et conquérir des territoires, faire respecter les droits de propriété et la surveillance policière que des propriétaires blancs considéraient comme nécessaires pour maintenir l'ordre, notre démocratie à ses débuts nous avait, dans une large mesure, livrés à nous-mêmes. Puis, une guerre sanglante éclata pour décider si faire respecter la propriété privée s'étendait à traiter les Noirs comme des biens. Des mouvements furent lancés par des travailleurs, des fermiers et des femmes qui avaient pu constater personnellement que la liberté d'un homme impliquait trop souvent leur propre assujettissement. Une crise survint et les gens apprirent qu'être livré à soi-même pouvait signifier la misère et la honte. C'est ainsi que les États-Unis et d'autres démocraties avancées en vinrent à créer le contrat social moderne. Comme notre société devenait plus complexe, la fonction du gouvernement a pris de plus en plus la forme d'une sécurité sociale, chacun de nous participant via nos impôts pour nous protéger collectivement, des dédommagements si notre maison était détruite par un ouragan, une assurance chômage si nous perdions notre emploi, le système de protection sociale et Medicare pour atténuer les outrages du grand âge, un accès sûr à l'électricité et au téléphone pour les habitants des zones rurales reculées où les sociétés d'équipement n'auraient sinon fait aucun bénéfice, des écoles et des universités publiques pour démocratiser l'enseignement. Cela a marché, plus ou moins. En l'espace d'une génération, et pour une vaste majorité d'Américains, la vie s'est améliorée, est devenue plus sûre, plus prospère et plus juste. Une large classe moyenne s'est épanouie. Les riches sont restés riches, mais peut-être pas aussi riches qu'ils l'auraient aimé, et le nombre de pauvres a diminué. Ils n'étaient pas aussi pauvres qu'ils l'auraient été autrement. Et si nous discutions de temps en temps pour savoir si les impôts étaient trop élevés ou si certaines réglementations décourageaient l'innovation, si l'État nounou s'appelle initiative individuelle ou si tel ou tel programme était du gaspillage, dans l'ensemble, nous comprenions les avantages d'une société qui s'efforçait tout du moins de donner sa chance à chacun et de construire un plancher en dessous duquel personne ne pourrait tomber. Maintenir cette cohésion sociale, toutefois, supposait une certaine confiance. Cela nécessitait que nous nous percevions comme liés les uns aux autres, pas nécessairement comme une famille, mais au moins comme une communauté, chaque membre étant digne de la sollicitude de tous et susceptible de prétendre à la solidarité des autres. Cela supposait que l'on croit que toute action entreprise par l'État pour venir en aide à ceux dans le besoin pouvait nous concerner et concerner les gens comme nous. Que personne ne faussait le système et que les malheurs, les faux pas et les circonstances qui causaient la souffrance d'autrui pouvaient un beau jour nous arriver à nous aussi. Au fil des ans, cette confiance s'est révélée difficile à maintenir. En particulier, la ligne de faille de la question raciale l'a mise à rude épreuve. Accepter que les Afro-Américains et d'autres groupes minoritaires aient besoin d'une aide particulière de l'État, que l'on pouvait imputer les difficultés spécifiques qu'ils connaissaient à une histoire brutale de la discrimination plutôt qu'à des caractéristiques immuables et à des choix individuels, supposait un niveau d'empathie, de solidarité, que de nombreux électeurs blancs avaient du mal à éprouver. Historiquement, des programmes conçus pour aider les minorités, de la promesse de donner à chaque ancien esclave 40 acres et une mule à la discrimination positive, ont été accueillis avec une franche hostilité. Même les programmes universels très largement appréciés, comme l'enseignement public et l'emploi dans le secteur public, sont bizarrement devenus des sujets de controverse à partir du moment où les gens noirs et de couleur ont été inclus parmi les bénéficiaires. Et puis, les périodes économiques plus difficiles ont eu pour effet de lézarder la confiance des citoyens. Quand le taux de croissance des États-Unis s'est mis à ralentir dans les années 1970, quand les salaires ont commencé à stagner et que les bons boulots se sont faits plus rares pour ceux qui n'étaient pas diplômés, quand les parents ont commencé à s'inquiéter parce que leurs enfants risquaient de ne pas réussir au moins aussi bien qu'eux, l'étendue de la sollicitude des citoyens s'est réduite. Nous sommes devenus plus sensibles au fait que quelqu'un d'autre obtenait quelque chose qui nous échappait et plus réceptifs à l'idée qu'on ne pouvait pas faire confiance à l'État pour être équitable. Défendre cette vision des choses, une vision qui alimentait non pas la confiance mais le ressentiment, en est venu à définir le Parti républicain moderne. Avec des degrés de subtilité divers et des degrés de réussite divers, les candidats du GOP l'ont adopté comme thème central, que ce soit pour la course à la présidence ou pour se faire élire à la commission scolaire locale. C'est devenu l'antienne de Fox News et des radios conservatrices, le texte fondateur de toute cellule de réflexion ou autre comité d'action politique financé par les frères Koch. L'État détournait l'argent, les emplois, les places à l'université et le statut des gens méritants qui bossaient dur, comme nous autres, pour les donner à des gens comme eux, qui ne partageaient pas nos valeurs, qui ne travaillaient pas aussi dur que nous, des gens qui ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils n'étaient pas contents de leur sort. La force de ces convictions a placé les démocrates sur la défensive. Les chefs de file du parti se montrant moins audacieux lorsqu'il s'est agi de proposer de nouvelles initiatives, ce qui a réduit les frontières du débat politique. Un cynisme épais et suffocant s'est installé. De fait, un principe désormais incontestable s'est imposé au sein des conseillers politiques des deux partis, à savoir que restaurer la confiance dans l'État ou dans toute grande institution était une cause perdue d'avance, et que la bataille entre démocrates et républicains à chaque cycle d'élection revenait dorénavant à déterminer si la classe moyenne pressurisée était plus encline à s'identifier aux riches et aux puissants, ou bien aux pauvres et aux minorités, pour expliquer qu'elle ne s'en sortait pas mieux. Je ne voulais pas croire que notre politique n'eût rien d'autre à offrir. Je ne m'étais pas présenté juste pour attiser la colère et désigner les fautifs. Je m'étais présenté pour rétablir la confiance du peuple américain, pas seulement en l'État, mais des uns dans les autres. Si nous nous faisions confiance, la démocratie fonctionnait, la cohésion sociale tenait, et nous pouvions résoudre d'importants problèmes comme la stagnation des salaires et la sécurité des retraites qui s'étiolaient. Mais comment et par où commencer ? La crise économique avait fait pencher la balance en faveur des démocrates, mais loin de restaurer le moindre sens d'un objectif commun ou d'une foi dans la capacité de l'État à bien faire, la crise avait aussi attisé la colère des gens, les avait rendus plus craintifs, davantage persuadés que les dés étaient pipés. Ce que comprenaient Santelli, ce que comprenaient McConnell et Boehner, c'était à quel point il était facile de canaliser la colère, à quel point la peur était utile pour défendre leur cause. Les forces qu'ils représentaient avaient peut-être perdu la dernière bataille dans les urnes, mais la guerre plus vaste, le choc des visions du monde, des valeurs, des récits, voilà celle qu'ils allaient encore essayer de remporter. Si tout cela me semble évident aujourd'hui, ça ne l'était pas à l'époque. Mon équipe et moi étions trop occupés. Faire passer le Recovery Act et mettre en œuvre notre plan pour le logement avaient peut-être été des mesures nécessaires pour mettre fin à la crise. Elles étaient néanmoins loin d'être suffisantes. En particulier, le système financier mondial était toujours grippé, et l'homme sur qui je comptais pour le réparer n'allait pas faire un départ très prometteur. Les problèmes de Tim Geithner avaient commencé des semaines auparavant, au cours du processus pour faire avaliser sa nomination au poste de secrétaire au Trésor. Historiquement, l'audition au Sénat des personnes nommées à des postes gouvernementaux était plutôt une formalité, les sénateurs des deux camps partant du principe que les présidents étaient habilités à constituer leurs propres équipes, même s'ils considéraient que les hommes et les femmes sélectionnés par le président étaient des crapules et des imbéciles. Mais ces dernières années, le mandat constitutionnel du Sénat de conseiller et approuver était devenu une arme de plus dans le cycle interminable de la guerre de tranchées partisanes. Les attachés parlementaires scrutaient désormais à la loupe les dossiers des personnes désignées par le parti opposé dont il s'agissait d'avaliser la nomination, à la recherche de la moindre erreur de jeunesse ou de tout propos préjudiciable susceptible d'être rapporté lors d'une audience ou utilisé dans les médias. La vie privée du candidat faisait l'objet d'innombrables questions publiques intrusives. Le but de l'exercice n'était pas nécessairement de faire capoter la nomination. La plupart des personnes présentées par le président finissaient par obtenir le poste, mais de perturber et de gêner politiquement le gouvernement. Le côté bizutage de la démarche avait une autre conséquence. De plus en plus fréquemment, les candidats à des fonctions dans la haute administration citaient le supplice de l'audition au Sénat, l'impact sur leur réputation, les répercussions que cela aurait sur leur famille, comme raison de décliner ces postes à haute responsabilité. Le problème qui se posait pour Tim avait trait à l'administration fiscale. Durant les 3 années qu'il avait passées au Fonds monétaire international, il s'est avéré que ni lui ni ses comptables n'avaient remarqué que l'organisation n'avait pas prélevé de taxes sur les traitements et salaires de ses employés. C'était une erreur innocente et apparemment classique. Et lorsqu'à la suite d'un audit, le problème a fait surface en 2006, 2 bonnes années avant qu'il soit pressenti pour le poste au Trésor, Tim avait rectifié ses déclarations de revenus et s'était acquitté de ce qu'il devait. Cependant, compte tenu du climat politique et compte tenu du fait que, en tant que secrétaire au Trésor, Tim superviserait l'administration fiscale, la réaction à son erreur a été impitoyable. Les républicains ont suggéré qu'il s'était rendu coupable de fraude fiscale. Les comiques des émissions télé du soir n'ont pas manqué de l'épingler en plaisantant à son sujet. Tim a commencé à se décourager, confiant à Axe et à Ram qu'il valait peut-être mieux que je nomme quelqu'un d'autre. Aussi, l'ai-je appelé un soir tard pour lui remonter le moral, lui assurer qu'il avait toute ma confiance, qu'il était mon gars. Si sa nomination a été approuvée quelques jours plus tard, Tim était conscient que ça avait été avec la plus petite majorité de l'histoire du Trésor américain et que sa crédibilité, tant aux États-Unis qu'à l'international, en avait pris un coup. Cela ne m'inquiétait pas outre mesure. Personne ne se souvenait du détail de ses votes et j'étais convaincu que sa crédibilité allait rapidement connaître un regain. Mais sa nomination compliquée m'a rappelé que Tim était encore un bleu, un technocrate qui avait passé sa vie en coulisses. Il lui faudrait un certain temps, comme il m'en avait fallu à moi-même, pour s'habituer au feu des projecteurs. Le lendemain de l'approbation de la nomination de Tim, Larry et lui sont venus me voir dans le bureau ovale pour me briefer sur l'état déplorable du système financier. Le crédit demeurait gelé. Les marchés étaient extrêmement instables. 5 très grands établissements, 5 grosses bombes, comme les appelait Tim, étaient particulièrement en péril. Fannie Mae et Freddie Mac, qui étaient devenus quasiment les deux seules sources de financement immobilier et brûlaient les 200 milliards de dollars de fonds du contribuable que le Trésor leur avait injecté l'année précédente. Le géant de l'assurance, AIG, dans une position singulièrement précaire après avoir garanti des produits financiers dérivés adossés à des hypothèques, qui avait eu besoin de 150 milliards de dollars au cours des 4 derniers mois uniquement pour se maintenir à flot, et 2 banques, Citigroup et Bank of America, qui à elles deux constituaient environ 14% des dépôts bancaires des États-Unis et avaient vu leurs actions chuter de 82% ces 4 derniers mois. Que les guichets de l'une de ces 5 institutions financières viennent à être assiégés et ce pouvait être la faillite, laquelle déclencherait un séisme financier mondial encore plus important que celui qu'on venait d'essuyer. Et malgré les centaines de milliards que le gouvernement avait déjà versés pour les secourir, il n'y avait aucune chance que les 300 milliards du TARP puissent couvrir les pertes au rythme où elles couraient. Une analyse de la Réserve fédérale prévoyait que, si tout le système ne se stabilisait pas rapidement, les banques auraient besoin d'un apport de liquidité de l'État de 300 à 700 milliards de dollars. Ces chiffres ne tenaient pas compte d'AIG, qui annoncerait plus tard une perte trimestrielle de 62 milliards. Plutôt que de verser plus d'argent du contribuable dans un seau percé, il nous fallait trouver un moyen de boucher les trous. Avant toute chose, nous devions restaurer un tant soit peu la confiance des marchés, afin d'enrayer le repli sécuritaire des investisseurs, qui avaient retiré du secteur financier leurs capitaux privés à hauteur de milliers de milliards, et de les convaincre de revenir et de réinvestir. Concernant Fannie et Freddie, a expliqué Tim, nous avions l'autorité pour y injecter plus d'argent sans l'accord du Congrès, en partie parce qu'ils avaient été mis sous tutelle publique. Sans attendre, nous nous sommes entendus pour débloquer 200 milliards de dollars supplémentaires. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était cela ou laisser disparaître de facto la totalité du marché hypothécaire. Quant au reste du système financier, les choix étaient plus délicats. Quelques jours plus tard, lors d'une autre réunion dans le bureau ovale, Tim et Larry ont esquissé 3 options de base. La première, celle que prônait en priorité Sheila Bair, la présidente du FDIC, l'organisme fédéral de garantie des dépôts, rescapé du gouvernement Bush, reprenait l'idée de départ de Hank Paulson pour le TARP, à savoir que l'État devait constituer une unique bad bank qui rachèterait tous les actifs toxiques et assainirait ainsi le secteur bancaire. Cela permettrait aux investisseurs de retrouver une certaine confiance et aux banques de prêter à nouveau. Sans surprise, les marchés appréciaient cette approche, puisque ce seraient alors les contribuables qui supporteraient les pertes futures. Le problème toutefois avec l'idée de la bad bank, comme Tim et Larry l'ont tout de fait remarquer, c'était que personne ne savait comment estimer correctement les actifs toxiques qui se trouvaient actuellement dans les comptes des banques. Si l'État payait un prix trop élevé, cela reviendrait à procéder de nouveau à un renflouement aux frais du contribuable, ce qui ne serait pas dénué de conséquences. Si, en revanche, le gouvernement payait un prix trop bas, et avec une estimation de 1000 milliards d'actifs toxiques encore en circulation, l'État serait contraint de pratiquer des prix bradés, les banques seraient dans l'obligation d'éponger immédiatement des pertes monumentales et seraient de toute façon presque assurées de couler. En fait, c'est précisément en raison des complications qu'il y avait à déterminer un prix que Hank Paulson avait abandonné l'idée au début de la crise. Nous avions une deuxième possibilité qui, à première vue, semblait plus adéquate. Nationaliser provisoirement ces établissements financiers d'importance systémique qui, d'après le prix actuel sur les marchés de leurs actifs et de leurs passifs, n'étaient plus solvables, les obliger ensuite à suivre une restructuration similaire à une procédure de faillite, y compris à imposer aux porteurs d'actions et d'obligations des décotes sur leurs avoirs, et éventuellement renouveler à la fois la direction et les conseils d'administration. Cette option comblait mon désir d'arracher le pansement en réparant le système une bonne fois pour toutes, plutôt que de laisser les banques aller clopin-clopant, telles des zombies, comme on disait parfois, tenant encore debout d'un point de vue technique, mais privées de la crédibilité et du capital suffisant pour fonctionner. Elle présentait également l'intérêt de satisfaire ce que Tim appelait un châtiment biblique, le souhait compréhensible de la population de voir puni et couvert de honte ceux qui avaient fauté. Seulement, comme d'habitude, ce qui apparaissait comme la solution la plus simple n'était en réalité pas si simple. Une fois que l'État aurait nationalisé une banque, les détenteurs d'actions de toutes les autres banques se sépareraient le plus vite possible de leurs avoirs, craignant que leur établissement ne soit le prochain sur la liste. De tels mouvements rendraient nécessaire la nationalisation de la banque la plus faible parmi celles qui restaient, puis de la suivante et encore de la suivante, ce qui aboutirait à une mainmise en cascade de l'État sur le secteur financier américain. Non seulement cela coûterait très cher, mais cela exigerait en outre que le gouvernement gère ses établissements le temps nécessaire avant de finalement les revendre. Et tandis que nous serions occupés à faire face à 1 million d'inévitables actions en justice, déposées non seulement par des plaignants comme Wall Street, mais aussi par des fonds de pension et de petits investisseurs en colère à cause de ces décotes imposées, la question serait de savoir qui placer à la tête de ces banques, d'autant que pratiquement quiconque ayant l'expérience requise était très probablement mouillé, impliqué d'une façon ou d'une autre dans les subprimes. Qui définirait leurs salaires et leurs primes? Que penserait la population si ces banques nationalisées continuaient à perdre de l'argent par millions? Et à qui l'État pourrait-il en dernier recours revendre ces banques, hormis à d'autres banques, sans doute tout aussi complice d'avoir créé l'épouvantable pagaille initiale? En partie parce qu'il n'y avait pas de bonne réponse à ces questions, Tim avait concocté une troisième option. Sa théorie était la suivante. Même si personne ne doutait que ces banques étaient en mauvais état et avaient effectivement un paquet d'actifs douteux dans leurs comptes, la panique des marchés avait tellement affecté les prix de tous les actifs que la situation paraissait peut-être pire qu'elle ne l'était réellement. Après tout, les prêts hypothécaires dans leur écrasante majorité ne feraient pas défaut. Tous les titres adossés à une créance hypothécaire n'étaient pas dénués de valeur, et toutes les banques ne croulaient pas sous les paris perdants. Néanmoins, tant que le marché aurait du mal à distinguer une insolvabilité avérée d'une pénurie provisoire de liquidité, la plupart des investisseurs éviteraient simplement tout ce qui se rapportait au secteur financier. La solution proposée par Tim serait bientôt connue sous l'appellation de « stress test » ou « test de résistance ». La Réserve fédérale établirait un seuil de référence en matière de fonds propres nécessaires à la survie de chacune des 19 banques présentant un danger systémique dans le pire des scénarios. La Fed enverrait ensuite des contrôleurs pour étudier de près les comptes de chaque banque et estimer de façon rigoureuse si elle disposait d'un matelas suffisant pour traverser une dépression. Si ce n'était pas le cas, la banque aurait 6 mois pour aller chercher cette somme auprès de sources privées. Si elle n'y parvenait pas, l'État entrerait à son capital à concurrence du seuil de référence et la nationalisation ne serait effective que si l'apport de l'État excédait les 50%. Dans un cas comme dans l'autre, les marchés auraient finalement une image claire de la situation de chaque banque. Les porteurs verraient leurs actions dans la banque diluées, mais seulement en proportion de la quantité de capital nécessaire pour que la banque soit en bonne santé. Et le contribuable ne serait mis à contribution qu'en dernier recours. Tim présentait sa troisième option comme une ébauche plutôt que comme un plan détaillé, et Larry a exprimé un certain scepticisme, convaincu que les banques étaient incorrigibles, que les marchés ne croiraient jamais à la rigueur d'audit géré par l'État, et que l'exercice ne ferait guère plus que retarder l'inévitable. Tim était conscient de ces risques. Il a ajouté qu'aucun test de résistance ne pourrait être mis en place avant au moins 3 mois, période pendant laquelle la pression publique pour que nous agissions de manière plus ferme ne ferait que croître. Entre-temps, toutes sortes d'événements pourraient entraîner les marchés dans une chute encore plus grave. Larry et Tim se sont tus en attendant ma réaction. Je me suis calé dans le fond de mon siège. « Y a-t-il autre chose au menu ?» ai-je demandé. « Pas pour l'instant, monsieur le Président. »« Pas très appétissant ?»« Non, monsieur le Président. » J'ai hoché la tête, réfléchi aux probabilités et, après quelques autres questions, décidé que l'approche test de résistance de Tim était notre meilleur moyen d'aller de l'avant. Non pas parce qu'elle était géniale, pas même parce qu'elle était bonne, mais parce que les autres approches étaient pires. Larry a comparé la démarche à un médecin administrant un traitement non-invasif avant d'opter pour une intervention chirurgicale radicale. Si le test de résistance fonctionnait, nous pourrions réparer le système plus vite et avec moins d'argent du contribuable. Dans le cas contraire, la situation n'aurait probablement pas empiré, et au moins aurions-nous une meilleure idée de ce qu'entraînerait une chirurgie plus radicale. À condition, bien entendu, que le patient ne meure pas entre-temps.